بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous sommes à notre deuxième rendez-vous qui est normalement une continuité, une fin de la première conférence où nous avons discuté de l'art de se comporter avec son épouse. Il est en fait, j'étais grandement content et heureux d'avoir, et c'est un peu normal comme la plupart des frères qui ont fait des conférences comme celle-ci, juste après avoir fait celle sur l'épouse, on a toujours quelques appels téléphoniques. Et naturellement ces appels, vous imaginez à quand viendra la conférence l'art de se comporter avec l'époux, puisque en général on essaie toujours d'avoir donc les deux avis, voir un peu ce qui se passe chez l'épouse, chez l'époux, pour essayer donc d'avoir ce qu'on appelle ce couple, que normalement nous en tant que musulmans on espère donc ressembler, on espère avoir donc tous ces détails cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons, par ses épouses. Et donc tout ce que l'on va rappeler aujourd'hui, vous remarquerez inchallah qu'il y aura des sujets où on peut quand même de nouveau changer la personne et faire en sorte comme si on parlait à l'époux aussi. Donc il y a des sujets qui sont aussi donc en commun donc pour les deux. Et comme on ne le rappellera jamais assez, Erwan, c'est que le mariage n'est pas seulement donc des envies, avoir des enfants, avoir son appartement, son petit boulot, et faire comme on dit souvent, on fait sa vie. Il est un fait qu'en tant que musulman, on a des responsabilités, on a des devoirs, des obligations, et on a aussi un comportement, c'est ce qui est important. On a un comportement en tant que musulman qu'on est censé retrouver chez l'époux et l'épouse. Et ce comportement, c'est lui qui va faire en sorte que ce couple va vivre longtemps, ou bien ce couple va se casser après quelques temps. Donc le comportement est quelque chose de très très important. Et il est un fait que aujourd'hui on va parler donc du côté de l'épouse, comment est-ce qu'elle doit se comporter vis-à-vis de son mari. On a appelé ça un art, car comme vous le savez, donc la femme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée aussi avec des spécificités. On vous parle souvent de tout ce qui est la beauté, la façon de parler, la délicatesse dans les mots, dans les gestes, et de ce fait elle a pu, comme on le lit souvent dans beaucoup de livres d'histoire, elle a pu s'accaparer les cerveaux, les têtes de bien d'hommes dans le monde. Et elle en a rendu bien fou un bon paquet parmi eux. Et tout cela parce que, si jamais cette spécificité qu'elle a est employée dans le licite, alhamdoulilah, cette personne qui naturellement sera rattachée à elle, vivra dans le licite. Et si jamais cette spécificité qu'elle a, cette, comme on dit le jamal, cette beauté, cette façon de parler et autres, hein, et qu'elle s'accapare donc, s'accapare de certaines personnes, en les déviant, il est un fait que cela aussi peut mener vers tout ce qui est négatif, néfaste, wala'adhu billah. Et il est un fait qu'on a une tradition de Usama radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle: je n'ai laissé après moi de preuves aussi nuisibles pour les hommes que les femmes. Et pourquoi alors est-ce que cette femme, cette épouse, n'employerait pas donc ce pouvoir dans le licite, puisqu'on sait qu'elle a alors cette force de pouvoir faire telle et telle chose, d'attirer, c'est le principal aussi. Pourquoi alors ne pas prendre cette spécificité, cette attirance que l'homme donc a vis-à-vis de la femme, et d'employer cela donc à bon escient, et normalement, comme on l'a expliqué pour la première conférence, et c'est le but de ces deux conférences, ou sinon, il est un fait que, comme vous le savez, il y a beaucoup de livres qui parlent du comportement, du mariage, et tous les sujets qui tournent autour de cela. Là, qui pour nous jeunes, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de remarquer que dans la première cassette qu'on a fait, on a cité une dizaine de points, dans la deuxième, on va en citer un petit peu plus, mais si jamais chacun de nous est sincère, à nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un fait que cette sincérité va faire en sorte que lorsqu'on sera face à certains problèmes, on pourra toujours et on devra toujours revenir vers le Coran, revenir vers la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se dire qu'il y a toujours une solution à nos problèmes. Il y aura naturellement quelques petits problèmes où il est un fait qu'on devra faire appel à des médiateurs, des personnes qui vont un peu nous rappeler les droits et devoirs. Mais si jamais cette crainte est là, si jamais lorsque vous avez choisi cette épouse ou lorsque l'épouse a choisi son époux, il y avait quand même à la base cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un fait que normalement, et on l'a déjà vécu par expérience, en général, lorsque cette crainte réapparaît, on remarque que les deux personnes alors reviennent ensemble et la vie peut alors continuer. Mais Allah yazkoum bi khair, ce qui manque souvent, c'est le comportement, la patience et le manque de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas, en quelque sorte, une intention qui est des fois sincère et de se dire non, c'est elle, c'est avec elle que je vais passer ma vie, ou bien pour l'épouse, c'est lui, c'est avec lui que je vais passer ma vie, et que s'il y a un problème, on essaie de discuter pour voir comment est-ce qu'on peut arranger cela. Mais on remarque que souvent, on a des fois des arrière-pensées, on a déjà des plans qui sont des fois préparés par l'un ou par l'autre, et c'est ce qui fait qu'on est étonné alors que lorsqu'on veut discuter, il n'y a pas de résultat. Si, comme donc on l'a rappelé dans les traditions, la femme donc est ce plaisir que l'on peut avoir donc dans ce bas monde, il est un fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans une tradition sûre que ce bas monde est un plaisir, et le meilleur plaisir de ce bas monde est la femme pieuse. Et dans le temps, lorsqu'on revient chez ce qu'on appelle salafuna salih, ces hommes pieux qui étaient assez anciens par rapport à nous, mais qui étaient très rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala, très proches dans tout ce qui était la pratique de leur religion, on remarque que, et j'ai pris l'exemple, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi seulement un simple exemple de Umama bintul Harith. Et Umama bintul Harith, elle est rappelée souvent dans beaucoup de livres d'histoire pour le comportement, la sagesse qu'elle avait. Et donc, elle donne un conseil donc à sa fille qui s'appelle Ummu Iyas bint Auf. Et vous allez m'entendre lire quelques points, c'est-à-dire il y en a 10. Je ne vais pas les détailler puisque la conférence, en quelque sorte, les points qui viendront après seront détaillés. Mais vous allez entendre quelques points que j'ai résumés. Comment est-ce que les mères s'asseyaient avant le mariage avec leur fille et discutaient avec elles, les conseillaient. Et s'il vous plaît, quand vous aurez l'occasion de réécouter, Inch'Allah, cette conférence lorsqu'elle sera donc mise sous cassette, rappelez-vous bien déjà aujourd'hui, rappelez-vous frères et sœurs, est-ce que des fois on a eu l'occasion de vous faire ces conseils-là? Et vous allez voir donc que la première chose que cette mère donc a conseillé à sa fille, c'est de vivre en commun avec son mari, donc avec sobriété, c'est-à-dire de se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bienfait. Si jamais tu as un petit peu de bien, c'est pas ça qui compte dans la vie du couple, mais c'est comment est-ce que tu es avec ton mari, ce qui t'aime bien et ainsi de suite. Le reste, les biens, la richesse et autres, comme vous le savez, ça vient avec sa part. C'est pas quelque chose qui reste constant. Donc elle lui apprend, elle lui demande d'accepter toujours de vivre avec ce que l'on a entre les mains et pas chaque fois essayer de vouloir demander plus. Deuxième point qu'elle lui demande de faire attention, elle demande une vie conjugale avec dévouement et obéissance. Et naturellement, dévouement et obéissance, comme on le verra plus tard, dans le licite. Elle lui demande aussi de respecter ses sensibilités, point aussi qu'on oublie souvent. Et c'est-à-dire qu'il ne voit de toi que du bien. Et on lui a demandé aussi qu'il ne sente de toi que les meilleurs parfums. Naturellement, ça aussi, il y a des conditions, comme vous le savez, si on est en train de parler, lorsqu'on est donc chez elle, à la maison et non à l'extérieur. Être aussi à l'heure pour son repas. Comme on va voir, c'est un sujet qui est bizarre ces derniers temps, qui a employé même bizarrement lorsqu'on parle du repas. On a l'impression que des fois, on peut lancer comme excuse entre guillemets de se dire « Oh, mais ils pensent qu'à leur ventre ou ceci ou cela ». Mais on voit que chaque être humain, en quelque sorte, a ses petits moments de plaisir, mais le plaisir, naturellement, a beaucoup de définitions. Ce n'est pas seulement cette relation qu'il y a entre l'homme et la femme, mais le plaisir de quelqu'un peut être aussi lorsqu'il est par exemple accueilli, lorsqu'il s'assit, il mange, il se repose. Il est un fait que c'est des demandes du corps aussi et qui font plaisir aussi au corps. Demande aussi d'être attentif au moment de son sommeil aussi, de savoir quand celui-ci devient fatigué, lorsque celui-ci veut aller donc se coucher. La femme aussi est attentive à ce moment-là pour pas que l'homme, lorsqu'il a envie de s'endormir, se lève comme un genre de petit robot, la laisse elle assise sur son petit fauteuil, et puis il va dans son petit lit, vous savez, comme un genre de petit toutou là, il rentre dans sa niche, il dort, on ne sait même pas quelle heure est-ce qu'il va aller dormir, comment est-ce qu'il va se réveiller, ni quoi que ce soit. Donc ça aussi, ce genre de problème était déjà rappelé, regardez combien de centaines et de centaines d'années. Protéger aussi sa demeure et ses avoirs, la bienveillance quant à son entourage et à ses enfants aussi. La femme accorde de l'importance donc à tous ceux qui sont autour du mari, sa famille, ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles, et qui plus est, ses parents. L'important aussi, comme on l'a cité à la fin de la phrase, les enfants, car il est un fait que normalement, et on l'espère, la femme accorde quand même des fois, c'est ce qui est un peu bien dans l'histoire, c'est qu'au moins elle accorde de l'importance à ses enfants, elle est autour d'elle. Bon, il se peut des fois qu'il y ait des manquements par-ci par-là, mais en général, on sait que c'est plus le fort de la femme que des fois le fort de l'homme, puisque l'homme en général donc travaille et plus à l'extérieur de sa demeure. Aussi, elle lui a demandé que tu ne peux divulguer aussi ses secrets, très très important aussi. Tu ne peux les désobéir dans le bien, et il faut, et on en a cité que 10, il est un fait que lorsque je suis repassé un peu dans tous ces petits textes, il y a beaucoup de choses qui ont été citées, lesquelles si jamais nos parents, si jamais donc les futurs parents que vous êtes, Inch'Allah, et pour certains d'entre vous, les futurs parents qui vont marier leurs enfants, il est un fait qu'il serait très très important que l'on revienne à ces anciennes personnes et voir comment est-ce quelle éducation ils avaient, quel comportement ils avaient vis-à-vis de leurs enfants et regarder comment est-ce qu'ils les enseignaient. Je l'ai cité exprès, pourquoi? Parce que vous savez, pendant que j'écrivais cela, bon, j'ai un peu ce côté de m'occuper avec le frère Mustafa Jazallah de tout ce qui est problème de couple et compagnie. Et je me rappelle qu'en l'écrivant, j'ai pensé des fois à toutes ces personnes qui sont passées chez nous au bureau, et où des fois on leur disait que voilà ce que normalement vous êtes censé savoir avant de vous marier. Et des fois, il y avait des épouses, très sincèrement, vous le disiez, ou bien même des époux, vous disiez, voilà, moi, en vérité, ma mère, elle m'a dit, fais attention, faut pas que tu sois l'hmara, hein, faut pas qu'il te marche dessus, faut pas qu'il te bouffe, faut pas ceci. Vous savez, tous des termes, des fois, comme si on a deux soldats qui vont se marier, deux GI, tu amènes un type par là et un autre par là, et puis une fois qu'ils se marient, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça passe ou ça casse. Et on a toujours alors deux personnes qui sont en train d'être toujours en alerte. Dès qu'un va faire peut-être une petite erreur, elle va ouvrir son fichier, ou bien il va ouvrir son fichier, va dire, ah, mais elle m'avait prévenu, elle m'a dit qu'un jour ou l'autre, il allait avoir ceci ou cela. Et on entend souvent aussi ce genre de remarques venant de l'extérieur. Qui plus est, si, voilà, comme le rappelle aussi la plupart des chouyours, qui plus est, si jamais l'épouse a des amis, qui sont un peu, hein, comme on dit, égarés, qui sont un peu à côté de la plaque, ou des fois, alors, vous savez, comment est-ce qu'on parle entre nous? On ouvre la porte à Satan, et puis souvent, alors, on rappelle où est-ce que tu avais les yeux, où est-ce que tu as ceci, et qu'est-ce que tu n'avais pas remarqué au début, est-ce que tu n'as pas pu lui faire ceci, et on commence, alors, à ouvrir la porte à toutes ces suppositions, à tous ces plans, qui, si jamais la personne est assez légère dans les prises de décision, bien dans son comportement, dans sa personnalité, c'est là que l'homme, en général, peut se retrouver face à des problèmes, car ce n'est plus lui, alors, qui dicte à son épouse comment est-ce qu'elle doit normalement vivre avec lui, mais c'est en quelque sorte les autres qui sont autour d'elle qui vont commencer à lui dire comment est-ce qu'elle doit se comporter avec son mari. Et ce n'est plus alors le Coran et la Sunna qui priment à ce moment-là, mais c'est toutes les autres copines qui peuvent alors primer. Et c'est pour cela que le choix, il n'est pas normalement cité dans la conférence, mais il me vient comme ça, le choix même des amis, et ça c'est un conseil qu'on donne même aux frères, pas nécessairement aux sœurs, mais donc même aux frères et aux sœurs, le choix des amis, ceux qui sont autour de vous, c'est un choix très très important aussi et qui rentre dans votre couple, très très important. Quand tu sais que ton épouse va avec des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont pratiquantes de la religion comme il faut, qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un fait que à ce moment-là, tu n'as pas normalement de crainte vis-à-vis de cette personne-là qu'elle dévie ou qu'elle vienne un jour ou l'autre te raconter je ne sais quelle histoire à dormir debout. Et ça donc c'est très très important. Une fois qu'on est arrivé donc à ce point-là, on entre dans le vif du sujet et on espère donc, Inch'Allah, que les sœurs, en écoutant donc ce sujet-là, et les frères aussi, essayeront, Inch'Allah, de décortiquer chaque point et de se voir, de discuter, donc le frère avec son épouse, de discuter entre eux pour voir où est-ce qu'ils sont par rapport à chaque point qu'on aura cité. Et donc, Inch'Allah, je pense que j'en ai ici à peu près pour une affaire de 18 jusqu'à 17 points. Certains seront expliqués en long en large, d'autres seront très résumés. Mais rajoutez ces 17 à la dizaine qu'on a cité la fois passée, vous êtes, mashallah, plus de 22 points. C'est quelque chose de pas simple, Ikhwan. Ça prouve que la vie de couple est quelque chose de pas très très simple. D'accord? Donc essayez, Inch'Allah, de décortiquer point par point. Pendant que je parle, essayez aussi de réfléchir et de vous dire, tiens, subhanallah, où est-ce que je suis par rapport à ce point-là? Est-ce que je le mets en pratique? Alhamdulillah, je suis content pour vous. Est-ce que je l'ai jamais mis en pratique? Faites attention, pensez-y. Donc c'est pour ça que le premier point très très important, et qui plus est de nos jours, c'est le fait d'accueillir son mari, donc avec un sourire, c'est-à-dire istiqbaluhu wal bashashatu fi wajhihi. C'est un point important car certains préfèrent de nos jours, et c'est le même cas que se passait des fois pour les épouses, certains préfèrent de nos jours rester à l'extérieur, ne pas entrer à la maison. Car si jamais il entre à la maison, il est un fait que c'est comme s'il entre dans une prison. Ou bien, il rentre chez quelqu'un qui n'a plus de muscles sur son visage. Personne qui ne sait plus rire. Et qu'en général, quand quelqu'un n'a plus de muscles dans son visage est tiré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours la tête jusque par terre, comme on dit. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de dire qu'il manque ceci, qu'il manque cela. Ou bien toujours en train de crier sur les enfants et ainsi de suite. On rappelle, et c'est fort important, que ça soit pour l'homme ou la femme, et c'est un conseil que vous devez garder en tête toute votre vie, ne jamais mélanger vos problèmes privés à vous internes, vos problèmes de l'extérieur, vos problèmes du travail, avec ce qui se passe à la maison. Ou bien le moment où vous entrez à la maison. Vous allez me dire, on parle de la sœur, pourquoi le travail? Parce que ça, c'est un des points qui est cité de nos jours. Le frère rentre du travail, la sœur a peut-être eu un problème à la maison, a raté son dîner ou a eu un je ne sais quel autre problème. Il est un fait que l'éducation doit lui apprendre que, à ce moment-là, elle doit laisser à côté son problème et faire tout son possible pour accueillir son mari jusqu'à un point où il ne remarquerait même pas qu'il y avait quelque chose dans la maison, qu'il manquait quelque chose, ou que son épouse a eu quelque chose. Et ça, c'est fort important. Pourquoi? Parce qu'il est un fait que l'homme de nos jours, lorsqu'il est amené, hein, à travailler, ou bien à tourner à gauche, à droite pour chercher du travail, ou bien aller faire des courses ou quoi que ce soit, il est un fait que le chemin est parsemé d'embûches. Il y a ce qu'on appelle le Bilal Tabarouj, ça veut dire tous ces gens qui ne sont pas habillés comme il le faut. Hein. Et vous le savez, de nos jours, il n'y a que ça, puisqu'on n'est pas dans un pays musulman haut, donc c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est l'habitude de certaines communautés ici. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de pudeur, qui vous regardent dans les yeux. Il y a aussi des gens qui, naturellement, par leurs parfums, leurs odeurs et autres, peuvent faire en sorte que la personne qui est un peu faible, hein, se sent des fois attiré par telle et telle personne en la regardant et ainsi de suite. Et comme vous savez, dans le regard, on a une mise en garde du prophète. Tu peux regarder la première fois, mais t'es fini après. Faut faire attention. Et c'est pour cela qu'on espère et qu'on demande que ce point, qui est un point très très simple, si vous remarquez, sourire, subhanallah. Il n'y a rien de spécial. Eh bien, les savants te disent que, en souriant, c'est une des façons d'apaiser le cœur de ton mari et c'est une des façons qui fait en sorte que ton mari est content d'entrer chez toi et content de te rencontrer. Et c'est pour cela, alors que, en général, c'est ce qui va faire le déclic du commencement de la soirée ou bien de l'après-midi ou de la matinée. Tout dépend à quelle heure est-ce qu'il rentre. Tandis que Bilal, allez, comme si vous entrez et qu'il y a une tête déjà jusque par terre, tout le monde crie, les enfants sont sales, la maison est comme on dit mourouna, ça sent mauvais, et ainsi de suite. Il y a moyen de, des fois de citer beaucoup de points. Comment voulez-vous que cette personne rentre avec un grand sourire, lève les mains, embrasse ses enfants et ainsi de suite? Non. Si jamais c'est quelqu'un de très solide, et on l'espère, il va faire en quelque sorte semblant. Et comme vous le savez, le semblant, on ne tient pas longtemps dedans. Un jour ou l'autre, on lâche et puis on dit les choses franchement. Et le choc est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'on te dit, mais subhanallah, tu as rigolé pendant un an. Tu n'as jamais rien dit pendant un an. Et on entend souvent ça. Dans les discussions entre frères et sœurs, la sœur est étonnée, ou bien le frère est étonné, quand la remarque sort après 3 ans. Tu n'as jamais fait de remarque. Pourquoi aujourd'hui? Donc c'est pour cela que ce genre de comportement, il est important. Et il est aussi important de rappeler alors à la personne que le sourire est quelque chose, comme vous le savez, que le prophète Sassam a demandé, même pour les musulmans entre eux. Alors que penser vis-à-vis de ton épouse, celle qui est avec toi, qui passe ta vie avec, et que penser de l'épouse vis-à-vis de son époux, celui avec qui elle passera, Inch'Allah, toute sa vie. Donc c'est un devoir qui est très très important et qui aide beaucoup et qui prend un gros pourcentage des problèmes que l'on retrouve entre donc dans les couples. Il est un fait que le meilleur, entre guillemets, le meilleur comportement, c'est celui de la femme qui, normalement, lorsque son mari donc rentre, l'accueille en premier devant la porte, vient avec ses petits-enfants si jamais elle en a, hein, lui ouvre la porte, les enfants en quelque sorte chacun. Vous savez, c'est comme des fois je rigole avec les petits à la maison, chez moi, ou bien des fois avec d'autres frères. Normalement, une personne qui est mariée et qui a peut-être, alhamdoulilah, déjà un enfant ou deux, lorsqu'il rentre à la maison, on aurait dit que c'est comme une société qui vient chez lui. Les enfants s'amènent, prennent son petit sac, son cartable ou autre. Sa femme lui enlève, par exemple, sa veste. Comment est-ce que tu vas, hein? Elle peut lui embrasser la tête et ainsi de suite. Elle lui pose des questions. Comment est-ce que tu vas? Comment était la journée? Ainsi de suite. L'homme, alors, à ce moment-là, se sent apaisé. Il est content. Il rentre, comme on l'avait dit la fois passée, dans ce fameux royaume. Là où, normalement, il a laissé donc quelqu'un qui était, en quelque sorte, comme un propriétaire, hein, ou bien un genre de concierge très, très vigilant. Mais ça, naturellement, comme vous le savez, de nos jours, ce que je viens de dire, c'est plus dans certains films, ça c'est des rêves, c'est dans la tête de certains, c'est tout des Inch'Allah, je l'espère. Non, vous remarquez, c'est quelque chose de simple, mais à laquelle il faut s'y habituer. Deuxième point, très très important aussi, c'est le fait de se faire belle et élégante pour lui. Il est un fait, on l'a rappelé, je l'ai fait exprès de le rappeler tout au début, de tout ce qui était ces massas et tous ces problèmes, toutes ces personnes qui en général ne s'habillent pas comme il faut. Donc c'est tout à fait normal qu'il peut y avoir, quand je dis normal, comprenez bien, chez quelqu'un qui, n'est pas habitué à se contrôler autre, n'est pas encore éduqué de ce côté-là, que peut-être il va faire la grave erreur de sa vie de commencer à regarder à gauche, à droite. Et certains, même si des fois sont, parce que de nos jours les termes des fois ne sont pas très très bien établis entre nous, même si des fois il est pratiquant comme on dit, c'est-à-dire qu'il pratique sa religion comme il faut, des fois arrive ce moment de faiblesse, mais qui est provoqué par quoi? Pas parce qu'il n'est pas pratiquant, loin de là, mais parce que il y a eu un sujet où Satan donc a remarqué qu'il y a un vide, et donc, comme vous le savez, il est un fait qu'une femme qui marche à l'extérieur dévêtue, entre guillemets, hein, parce que comme vous voyez certains, c'est même plus de l'habillement, si on peut dire ainsi, si jamais alors l'époux arrive dans un moment de faiblesse, voilà, alhamdoulilah, il est un fait que souvent, quand on discute avec ce frère-là, ce n'est pas parce que c'est un pervers qui a envie d'aller regarder à gauche, à droite, loin de là, mais c'est parce qu'en général, il te dit que, chez moi, quand je rentre, j'ai peut-être une nettoyeuse ou quelqu'un qui vient de marcher sur une mine ou je ne sais quoi, c'est une mrisha comme on dit, il y a rien, c'est la même, je vois depuis 10 ans. Sauf, certains d'entre vous vont peut-être se plaisir, sauf quand ils partent à un mariage. Alors vous avez de la chance pour une fois dans le mois, si jamais vous la laissez aller une fois par mois un petit mariage, vous avez alors de la chance de l'avoir habillée comme il faut. Ou sinon, pas de chance, mon frère, faudra patienter au prochain mariage. Et des fois, ça dure comme ça, pendant des mois et des mois et des mois, et si jamais, la qaddarallah, si jamais il tombe un jour ou l'autre, hein, sur quelqu'un qui a ce genre de faiblesse et qui lui dit, par exemple, comme des fois on nous l'a dit, mais hein, c'est trop tard quand ça se passe, ah, t'as vu la sœur, machallah, ou bien t'as vu ceci ou cela, Ça, c'est la plus grave erreur à commettre. Jamais, jamais, jamais aller montrer l'autre pour dire tiens, regarde, parce que des fois, on peut trouver ce manquement chez l'épouse, chez elle, et le mari alors, à force de ne plus, entre guillemets, aimer alors cette personne, commet la grave erreur et comme on l'entend de nos jours, peut même tomber dans l'adultère. Et c'est pas un mot que j'ai sorti comme ça tout simple, loin de là, mais on en a, au centre islamique, on en a presque minimum un à deux par jour ou par deux jours. Minimum. Wallah, il a dit, on est témoin. Minimum. D'adultère. Et des fois, quand le frère vient, ou la sœur, tu es étonné. Tu n'as pas devant toi, on va dire, un hippie ou quoi que ce soit. Non, tu as des fois un frère normal, une sœur normale, mais le frère, il te dit, voilà, il n'y a plus rien entre nous, il n'y a rien. Pourquoi tu n'as pas pensé d'abord à ceci? Non, c'est tout, je ne veux plus discuter. Assalamu alaikum, il part. Donc, vous avez, chère sœur, entre les mains, certains moyens, comme on dit. C'est pour ça que Cheikh Douish, jazakallah, a appelé cela sihr al-halal. C'est-à-dire, en quelque sorte, ce genre de magie, si on peut appeler ainsi, mais qui est licite. Alors qu'on sait qu'en général, cette magie, hein, elle est illicite. Mais lorsqu'on va voir dans la langue arabe et qu'on cherche après donc ces mots-là, on sait que en général, même des fois la parole, hein, même des fois la parole qui est dite comme il faut et d'une certaine façon, peut être aussi un genre d'envoûtement et d'attirance vis-à-vis donc de l'autre personne. Donc on a des moyens que la femme peut employer qui sont alhamdoulilah licites, mais vis-à-vis alors de son mari tout simplement. Et c'est pour cela qu'on vous demande, chère sœur, de faire aussi attention à mettre en quelque sorte ou à ne mettre que des vieux habits. Ou bien toujours les mêmes. Parmi les erreurs qu'on entend souvent, par exemple, des fois, il peut arriver que l'épouse, par exemple, et des fois ça arrive même au frère, donc que l'épouse reste toute une journée, comme on dit entre guillemets, en pyjama ou en un long camis ou autre. Le même habit toute la journée. C'est-à-dire tu sors le matin, habillé en pyjama, tu reviens le soir, la même chose. Et tu vas dormir, la même chose. Le lendemain, donc, vous remarquerez que c'est en quelque sorte une fausse intention d'arriver alors un jour à se préparer alors pour une fête ou autre, à une sortie, et en quelque sorte se changer. Alors la question qu'on demande et qu'on pose souvent à nos sœurs, qui est-ce qui a de plus d'importance à tes yeux? Est-ce que c'est ton époux ou bien les gens vers qui tu vas aller? Est-ce que tu préfères que Allah subhanahu wa ta'ala voit ton comportement vis-à-vis de ton époux et agrée ton comportement, ou bien tu préfères que c'est les gens alors qui agréent ton comportement parce qu'ils vont plutôt agréer ton habit, ils vont voir que tu es bien habillé ainsi de suite. Et taïb, comme il est dit dans bien des fois des discussions, et ils diront que tu es ainsi, ainsi, ainsi. Et après, quel est le bénéfice que tu en retires? Au contraire, tu ne retireras plus tard qu'une perte, et qui est la perte de ton mari, et des fois même de ta famille entière si jamais il y a des enfants et ainsi de suite entre vous. Il est un fait aussi, faire attention, donc lorsqu'on parle d'élégance et autres, faire attention à tout ce qui est l'hygiène. L'hygiène du corps est important. Comme on l'a parlé, on en a discuté la fois passée de l'homme, et ça a peut-être fait rire certains, eh bien il y a l'hygiène aussi de la femme qui est importante, et certains chouyours, lorsqu'ils parlent de ce genre de sujet, te disent qu'il se peut que la personne, des fois, arrive à un moment, l'époux arrive à un moment de dégoût, parce que lorsqu'il va, par exemple, pour embrasser son épouse, il se pourrait qu'il sente une odeur, par exemple, je ne sais pas moi, d'oignon, d'ail ou autre, parce qu'elle a eu un petit creux, elle a été mangée, on va dire, un sandwich à l'oignon, j'exagère, comme d'habitude, mais bon, imaginez la scène. Ça peut se passer une fois, ça peut se passer, on va dire, une deuxième fois. Mais des fois, il nous arrive des plaintes comme quoi c'est des choses qui sont des fois répétées. Où la personne ne pense pas à se parfumer pour son époux, alors qu'elle est à la maison, elle a le droit de le faire. Puisque souvent, il y a beaucoup de haram. Au contraire, le haram, lorsqu'il est là, c'est qu'il a une importance pour toi, que ce soit le frère ou la sœur. Ici, alhamdoulilah, il y a du halal, il y a du licite, intérieur de ta maison, chez toi, dans ta demeure. Pourquoi alors ne pas employer donc cette chose qui t'est donnée, le fait de te parfumer par exemple, pour qu'à n'importe quel moment, si le mari rentre à n'importe quel moment, et vient te saluer ou autre, au moins, il sent quelque chose qui peut l'attirer. Et c'est ce qui garde en quelque sorte cette bonté, cette clémence, cet amour entre les deux personnes. Il est un fait aussi, le reste du corps, comme vous le savez, comme on l'a dit, c'est la même chose pour l'homme. Un point très important, le cou aussi. Un des chirurgiens, jazakallah, Douish toujours, rappelait, il dit que le cou est un endroit très très important, que ce soit pour l'homme ou la femme, dans leur moment intime. C'est un endroit important, mais de nos jours, il est un fait que, en rigolant, comme on des fois avec certains frères lorsqu'on discute de ces sujets-là, il est un fait qu'on peut, et je l'ai dit la fois passée, on peut avoir... Et c'est tout à fait normal parce que l'être humain est comme ça. On peut avoir des fois un genre de petit rejet de la personne lorsqu'au moment où tu vas peut-être l'embrasser, tu vois de la sueur dégouliner. Alors est-ce que tu viens lui lécher son cou, bien l'embrasser ou bien te retrouver après en tant que comme quelqu'un qui bave ou je ne sais quoi? Subhanallah, certains te disent que je ne le fais même pas, j'ai pas besoin de le faire. Alors imaginez-vous si jamais ce genre de rejet s'installe dans le couple, il est un fait qu'on rapporte souvent tout ce qui est le dégoût, ça reste souvent ancré dans la tête. Le dégoût, et c'est prouvé, reste souvent ancré dans la tête de la personne. Et lorsqu'il sait que telle et telle chose l'a dégoûté, en général, il fait attention. Alors imaginez-vous comment est-ce que la personne va commencer à vivre avec l'autre en faisant chaque fois attention, est-ce que je peux embrasser là ou pas, est-ce que je peux ceci, est-ce que je peux cela. Subhanallah, non. Alors que normalement, dans leur intimité, le couple, hein, dans leur intimité, il est un fait que normalement, le musulman est quelqu'un qui est toujours propre, qui est dans une, ce qu'on pourrait appeler, donc il a une hygiène indiscutable normalement. Quelqu'un qui, quand tu parles avec lui, il n'y a pas une mauvaise odeur qui sort de sa bouche, puisqu'on vous parle souvent de siwak, ce petit bâtonnet. De nos jours, il y a même les brosses à dents, il y a même des brosses métalliques, si tu veux, il y a tout. Hein, ça va, tu te laves les dents. Va te laver tous les produits que tu veux. Les blendamèdes, les blendages, je ne sais quoi, il y a plein. Et ça coûte rien des fois. Lakin, comme d'habitude, on ne fait ça que si jamais on va être amené à discuter avec quelqu'un qui est élevé ou quelqu'un qui je ne sais qui. Alors là, on a honte parce que ah, purée, bah, je pue ou je ne sais quoi. Alors là, on court vite, on s'arrange, on se parfume et ainsi de suite. Non. La personne qui est la plus importante à tes yeux, c'est ton époux. Et l'époux, la personne la plus importante à ses yeux, c'est son épouse. Il est un fait que le point qui est cité ici se rapporte toujours, comme on l'a expliqué même pour l'homme, à l'exagération. L'exagération, pourquoi? Parce que je sors un petit sujet qui est ce qu'on appelle donc des fois, lorsqu'on parle de se faire élégante, il y a le problème des cheveux, de se couper les cheveux. Et on rappelle souvent alors que même si on veut le faire, il faut rester dans les limites de l'islam. Il ne faut pas que, comme il est dit, que la femme ressemble alors à un homme. C'est comme si on a deux hommes qui se parlent. Non, c'est pas ça le but. Et il y a comme ça, donc même pour le parfum, ça maintenant vous le savez, c'est quelque chose qui se répand, alhamdoulilah. C'est pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. Hein. Et donc il y a même l'habillement, c'est-à-dire même le fait de porter donc tout ce qui est ses pantalons et ainsi de suite, on l'a assez expliqué et assez, en quelque sorte, redit dans beaucoup de conférences. Car comme vous savez, il y a une malédiction, Allah s.w.t. maudit donc tous les hommes qui veulent ressembler aux femmes et les femmes hein, qui veulent ressembler aux hommes. Donc c'est quelque chose de très très important aussi et à laquelle il faut faire attention. Car dans toute chose, alhamdoulilah, qui est licite, on est toujours amené à faire attention, à ne pas exagérer dans ces choses-là et se retrouver aux limites qu'Allah s.w.t. donc a données. L'autre point important est ce qu'on appelle la plaisanterie et la douceur aussi de l'épouse vis-à-vis de son époux, c'est-à-dire al-marah ou al-mizah ou al-lutfu wa al-zalal. Et il est un fait que c'est aussi un petit point qu'on néglige, car comme vous le remarquerez, les trois points qu'on vient de citer sont tous des points qui en quelque sorte rentrent dans les moments intimes du couple. Et ce sont les moments où on construit son couple. Ceux qui l'auront compris sauront que ce sont les moments durant lesquels le couple se construit. La bonté, la clémence, l'amour qui est entre les deux, c'est là qu'elle se construit. Mais si vous négligez tous ces points-là, il est un fait que vous ratez en quelque sorte toujours les meilleurs moments que normalement on doit retrouver dans votre vie de couple. Et c'est pour cela que on néglige souvent, et on demande aux sœurs aussi de penser à cela, le fait de prendre du temps pour s'asseoir avec donc leur mari, de discuter, de rire aussi dans les limites du rire. Parce que comme vous le savez, le trop de rire inutile dans le vide peut tuer le cœur en quelque sorte. Là, la personne s'habitue alors qu'à faire, vous savez, qu'à devenir comme un genre de robot, rigoler pour rigoler. On a aussi des limites dans ce domaine-là, mais on demande que, comme on l'a rappelé pour les frères, prendre le temps de s'asseoir, de discuter et de se laisser aller, entre guillemets. Quand on dit de se laisser aller, c'est que la personne prend du temps pour elle et pour son époux, son mari. C'est un petit moment qui peut des fois durer quelques minutes, qui peut durer peut-être une dizaine de minutes, mais en quelque sorte la personne, lorsqu'elle reprend de nouveau son train-train quotidien, il est un fait que la personne se lève apaisée. Le mari se lève apaisé, il est content. Bon, il vient de passer quelques minutes de discussion, on rigole, on parle un peu de ci, de cela, qu'est-ce qui s'est passé durant la journée, qu'est-ce qui s'est passé au travail, dans la rue, et ainsi de suite. Si la personne a été à une conférence, hein, et que, par exemple, votre époux a été à une conférence, vous n'avez pas pu aller avec lui, vous lui demandez qu'il vous fait un petit résumé. Ce sont des moments très très importants qu'on néglige aussi. Et la routine, l'inverse, c'est quoi? C'est en quelque sorte, et des fois l'exemple que je vais vous donner est un exemple qui est très bien, il n'y a aucun problème, mais parce que on néglige ces petits moments, on peut tomber dans les problèmes, même si l'exemple il est bon. C'est lequel? C'est que la femme skina, elle peut passer sa journée à faire que du ménage. Toute la journée en train d'aller frotter par-ci, par-là, d'arranger ceci, puis c'est l'heure du dîner, par exemple à midi, eh bien elle va passer pendant une heure et demie dans la cuisine, on mange, elle refait de nouveau du ménage, que les enfants un peu salis, jusqu'à ce que l'heure du soir est arrivé pour manger, puis de nouveau le ménage et ainsi de suite. Et quand est-ce qu'il se voit? Presque pas, ou bien presque jamais. Et ça, c'est des cas réels, et qui font en sorte que le couple tombe dans la routine, et se casse par après au fur et à mesure. Et on essaye aussi de penser, lorsqu'on parle ici de la plaisanterie, de la douceur et autres, on essaye aussi de penser, pour ce moment-là, et c'est un point que l'épouse doit aussi garder en tête, et important pour aussi acquérir et garder et gagner l'amour et la douceur de son mari vis-à-vis d'elle, elle doit aussi penser à ce moment-là, à lorsqu'elle fait hein, lorsqu'elle fait cette plaisanterie à son mari ou qu'elle est en train de discuter ou rire avec lui, de penser à quelque chose par exemple qui lui fait plaisir, que ça soit, je donne un simple exemple, bon, j'avais mis par exemple, que ça soit quelques paroles, que ça soit un petit parfum qu'elle lui offre, que ça soit un petit écrit ou autre. Mais de nos jours, billah alaykoum, où est-ce qu'on est par rapport à la langue arabe, où est-ce qu'on est par rapport à la poésie, celle qui est licite, qui est bien, où est-ce qu'on est par rapport à bien d'autres choses. Des fois même se parler, on ne sait pas. Des fois on a presque deux jeunes de la rue qui se marient. Elle connaît que des Atskia et tout, et l'autre elle connaît encore plus que Kiskia. Alors quand ils se parlent, t'as l'impression que si tu fermes les yeux, tu te crois au métro Ribeaucourt, bien dans une station. On dirait Naam. Ça on les voit quand ils viennent chez nous, des fois même au centre, ils sont assis là en face de vous. Puis il faut, oh, qu'est-ce qu'il y a, qui t'a dit que j'ai fait allusion à toi, qu'est-ce qu'il y a, toi, qu'est-ce qu'il y a, ça y est, subhanallah, tu dis, hein, mashallah. Si à côté de moi, il y a le vraiment, en disant qu'est-ce qu'il y a, quand ils sont à la maison, c'est un match de quoi? Billah alaykoum. Et ça se passe. Des fois, on nous appelle, on dit, voilà, elle m'a dit, va te ceci, ou bien va kada, ou bien va ceci, ou cela. Et ça arrive donc chez des couples musulmans. Ou le mari aussi, alors, vous savez, il se dit, ah, c'est comme ça que ça se passe. Il fait son ordinateur, il va au fichier insulte, clique, enter, il rentre, ouais, tu vas entendre des insultes, vas. Non. C'est pour cela que cette éducation est importante. S'habituer avec votre épouse à s'asseoir, discuter, lui vider, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, parle, dit, qu'est-ce qu'il y a. Cette sincérité va faire en sorte que, si jamais elle a un problème ou quoi que ce soit, elle va venir alors discuter avec vous. Et vous, chère sœur, si jamais vous avez aussi cette sincérité vis-à-vis de votre mari, en général, si jamais il a un petit problème ou il a une demande à vous faire, il ne va pas réfléchir pendant 2 semaines, 3 semaines, comment est-ce que je vais lui demander, comment est-ce que je vais lui dire, et ainsi de suite. Non, au contraire, il le fera directement. Et ça, c'est un point aussi qui est très très important. Le quatrième point, c'est le fait de reconnaître ses bienfaits et le remercier. C'est-à-dire, al-i'tiraf bi jamilihi wa shukrihi. Ça, c'est un des points les plus embêtants aussi dans la vie de couple. Car, comme d'habitude, vous allez remarquer, il y a certains points où c'est entre vous et votre mari, et certains points, il y a un troisième, c'est shaytan, ou bien les suppôts de shaytan, tous les aides qu'il a autour de lui. Et qui plus est dans ce sujet-là, le fait de reconnaître les bienfaits de son mari et de le remercier. Et naturellement, il manque, comme on l'a expliqué pour les épouses, pour l'époux plutôt, il manque pour l'époux de nos jours, le fait de remercier, donc l'épouse ou avec de remercier son époux, des fois rien que pour, en quelque sorte, le bienfait dans lequel elle est. Si jamais elle vit dans une vie qui est calme, qui est bien, dans le domaine de religieux, dans le domaine familial, les enfants et ainsi de suite, rien que ça, le remercier de Alhamdulillah, hein, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que je vive avec toi, tu es quelqu'un de bien. Quand je vois des fois certaines sœurs, comment est-ce qu'elles vivent, dans quoi est-ce qu'elles vivent, eh bien je suis heureuse, ainsi de suite. Ça fait plaisir à l'époux. Et on voit que normalement sa fonction d'époux, cette personne qui est normalement responsable de ce couple, eh bien il se sent en quelque sorte fier et essaye de faire quelque chose encore mieux que ce qu'il faisait. Mais quand il n'y a pas ce genre de remerciement, de mots doux entre les époux, il est un fait que quelqu'un peut s'habituer à vivre comme ça. Lakin, ce plaisir qu'on peut avoir alors d'entendre un remerciement, il est un fait que lorsque cela vient de l'extérieur, Satan peut parvenir, vous le savez, quand c'est entre frères. Si tous les 3 minutes un frère devait venir chez toi, oh mashallah, comment tu es à Paris, à peine il parle au deuxième, oh mashallah, comment tu es, Satan va arriver au troisième. Et tu vas commencer à avoir un grand coup et ainsi de suite, l'orgueil à leur approche. Lakin ici, subhanallah, il n'y a pas de place, parce que c'est entre toi et elle. Mais là où Satan peut arriver, et peut venir, c'est lorsque tu parles de ces remerciements aux autres. Et c'est pour cela qu'on demande que ces remerciements restent en quelque sorte un secret entre vous et votre époux. Ne pas chaque fois aller parler de vos bienfaits, de vos choses qui sont bien, avec n'importe qui. Car il y a ce qu'on appelle toujours des envieux, ceux qui ont le hasad. Et des fois il y a des envieux et des envieuses, qui des fois, pas par haine vis-à-vis de vous, mais parce que avec ce que vous leur racontez, ils voient directement, et bien ils se revoient eux, et voient que chez eux, c'est l'enfer. Et des fois deviennent alors envieux, à un point où plus tard, voilà, on l'espère pas, mais plus tard peuvent même devenir des gens qui sont alors contre vous. Et essayent en quelque sorte de vous trouver peut-être des failles, et ainsi de suite, pour casser ce bonheur dans lequel vous êtes. C'est pour cela que tous ces moments d'intimité, il faut les garder privés. C'est entre vous et votre mari. Et on a aussi l'inverse. Et l'inverse a été cité par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous dit, dans une tradition, « Oh, vous les femmes, donnez l'aumône. Je vous ai vu être bas, c'est-à-dire plus nombreuses parmi ceux de l'enfer. » Et elle dit, donc les femmes qui étaient avec autour du prophète, ça se dit, « Pour quelle raison au prophète, sallallahu alayhi wa sallam ?» Il dit, « Vous exagérez dans les injures et les malédictions, vous mécroyez en la vie conjugale. » Donc elles, donc les femmes qui étaient là, disent, « Comment est-ce qu'on mécroit ?» Il dit, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Si tu te montres correct envers l'une d'entre elles, toute une durée, puis... » C'est-à-dire cette femme voit alors de toi un défaut quelconque, elle dit « Je n'ai jamais vu de ta part un bien quelconque ». Un kirna al-ashir, comme on dit. Souvent, il se peut que, parce qu'un jour tu as fait une petite erreur, tu es arrivé en retard une fois, tu vas peut-être enfant, tu n'es jamais venu à l'heure. Tu es toujours comme ça. Toi, tu ne changeras jamais, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la femme, l'épouse alors, va peut-être passer, laisser passer plutôt ses nerfs que le fait de se retenir et de se dire, c'est vrai, peut-être qu'il revient d'un endroit où il a été peut-être bloqué, l'embouteillage, ou ceci, ou cela, ou je ne sais quelle autre raison. Là, on se retrouve alors souvent vis-à-vis de quelqu'un qui va toujours te rappeler que tu n'as jamais fait ceci, tu n'as jamais été cela, tu n'as jamais... Ça, chère sœur, c'est un point où il faut faire très très attention. Car quelqu'un, et comme on l'a dit pour les sœurs la fois passée, c'est important pour aujourd'hui vis-à-vis de l'époux. Quelqu'un qui va entendre toujours du négatif autour de lui, un jour ou l'autre il va se dire, alors à quoi je sers? S'il y a du négatif, s'il y a du néant, il n'y a jamais rien de bien, à quoi est-ce que je sers? Et donc cette personne-là va peut-être alors s'habituer à se dire, ouais, elle dira quand même que je n'ai jamais rien fait. Eh bien je ne fais rien, il n'y a pas de problème. Et des fois on se lance même ce genre de pique, pour rigoler, hein, pour embêter l'autre. Quand on vous dit alors à ce moment-là, tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire ceci demain? Qu'est-ce que la personne dit? Non, moi je ne sais jamais rien faire. Tire ton plan, salam alaykoum. Et on commence alors à se faire des petites menaces, des petits chantages et ainsi de suite. Donc vous remarquez que ça ne mène à rien du tout. Et c'est pour cela que ce point ici, le fait de remercier, ça c'est un comportement, une morale qu'on doit retrouver. Même donc, on a parlé du couple ici, mais même, c'est bien de sortir un peu, même entre les frères, apprendre à se remercier. Un frère te rend un service, apprendre à remercier ce frère. Et ça manque de nos jours dans les comportements. Car c'est ce qui tient normalement, vous savez, si la fraternité était une genre de chaîne, eh bien il y a un tas de maillons dans une chaîne. Eh bien, parmi les chaînes qu'il y a dans la fraternité, on peut retrouver le remerciement. Remercier les frères. Et que penser alors lorsqu'on retrouve ce remerciement dans le couple? Et naturellement, le remerciement à chers frères et sœurs, il est fait d'une certaine façon aussi. C'est toujours aussi dans les moments les plus intimes. Et il prend alors de l'importance et de l'ampleur. C'est pas le remerciement, hein, que par exemple tu rentres, tu lui déposes des pommes de terre et tu fais shokran. Allez, je lui ai apporté quelque chose de bien. Préparer le reda. Ça, c'est un remerciement assez amer. Parce qu'il est spécial, celui-là. Eh bien, tu rentres, toi, homme tout fier. C'est ta responsabilité, de la viande, du psal, hein, des oignons, un tas de plastique, et tu lui fais, soir, j'ai trois copains qui viennent, je te remercie, wallah, je te remercie. Ça c'est un remerciement spécial, il faut le faire après. Avant, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'avant, peut-être ça va attirer la colère et ainsi de suite. Lakin, pour la sœur, il est un fait que, normalement, et on le verra dans les points qui vont venir, normalement, le fait de travailler pour son époux, entre guillemets, quand je dis travailler pour son époux, faire en sorte que son époux, si jamais il a besoin de quelque chose, tu le fais pour lui, il est un fait que quand tu le remercies, tu verras plus tard dans les traditions qu'on va citer, tu es en quelque sorte en train de gagner le paradis. Tu essayes de gagner le paradis à ce moment-là. Mais de nos jours, étant donné que les théories, les lois ont complètement changé, la plus haugara, comme on dit, la plus folle, ou bien la plus celle qui est à côté de la plaque, c'est celle qui va venir, en ayant préparé un repas pendant 3 heures, elle vient encore chez lui, dit je te remercie. Ou elle dit, ouais, tu es pas normal, est-ce qu'il te manque quelque chose? Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui sont en face et qui, des fois, vous font passer ce genre d'idées, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le rôle et ne connaissent pas le rôle, normalement, de la femme vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de sa famille, de son intérieur, et ne connaissent pas aussi le bénéfice qu'a, normalement, cette femme lorsqu'elle vient faire aussi ce remerciement. Le cinquième point aussi qui est fort important, c'est s'excuser aussi auprès de lui. Et la femme, comme on l'a dit la fois passée, donc est un être humain, il peut aussi oublier, il peut aussi faire donc des erreurs, peut se tromper aussi. Et c'est pour cela que penser si jamais donc la personne le fait mais en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle l'a vraiment fait exprès en quelque sorte. Donc vous avez les deux limites, les deux extrêmes. On demande alors, comme on l'a demandé pour l'époux vis-à-vis de son épouse, eh bien c'est un acte que l'on doit retrouver aussi de l'épouse vis-à-vis de son époux. Et ne pas laisser Satan entrer dans ta petite tête et te dire pourquoi est-ce que je dois chaque fois m'excuser, eh bien pourquoi est-ce que je dois, comme on l'entend souvent, me rabaisser. Ce n'est pas se rabaisser, jamais. Le mot excuse, il est un fait que c'est une des portes qui fait que la personne revient vers l'autre. Et c'est pour ça que Satan ne l'aime pas ce mot-là. Le mot excuse, Satan ne l'aime pas. Pourquoi? Car en général, quand il y a une dispute entre les deux, Wallah, vous serez étonné qu'il manque tout simplement, excuse-moi, pardonne-moi. Et des fois, la dispute s'arrête en 10 secondes. Et pourquoi est-ce qu'elle ne s'arrête pas entre certains parmi nous? Pourquoi? Parce qu'à la seconde, on fait des calculs. Qui va se rabaisser le premier? Qui va revenir le premier? Eh bien, on dit à l'épouse, si elle veut gagner un bénéfice immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle a ce bienfait de s'excuser elle en premier, qu'elle le fait. Wallahi, elle ne verra ce bénéfice que le jour du jugement dernier. Mais qu'elle le fait. Car le principal pour elle, c'est de gagner quoi? C'est de gagner son mari. Et ce n'est pas, en quelque sorte, de gagner une guerre, comme le diraient certains, ou une bataille, ou bien, en quelque sorte, un fait qui vient de se passer, et on te dira après, et qu'est-ce que t'as fait, au fait? Ce qu'on a bien, ça, après, hein, qu'on le raconte aux sœurs, ou bien, hein, à sa sœur elle-même, on va dire, sa vraie sœur de père et de mère, ou bien aux cousines, et alors, qu'est-ce que t'as fait? Et alors, on attend la réponse. Pour voir si t'es, l'aïdoubillah, comme on dit chez nous, les shmata et compagnie, ou bien chez les filles, comme ils disent des fois, dans des sales langages qu'on entend souvent,
même que ça soit pratiquant ou pas, hein, le style de Agbouna, comme on dit. Et on l'entend, le frère vient et te dit, ah ouais, mais on l'a traité de ceci ou cela. Qu'est-ce que je dois faire, mon frère? Est-ce que je dois l'attaquer la famille? Parce que la cousine ou un tel la traite chaque fois. Ah, l'Agbouna, tu as été faire. Tu t'es rabaissé auprès de lui. Voyez, voyez, voyez. Il va te le faire encore une fois. Et ainsi de suite. Sa chère sœur, faites en sorte de nettoyer autour de vous. Ne laissez pas en quelque sorte, et même vous, chers frères, conseillez aussi vos épouses dans ce domaine-là. Ne laissez jamais, jamais, jamais des gens entrer autour de vous dans tout ce qui est ce domaine aussi d'intimité, c'est-à-dire le fait de venir s'excuser lorsqu'il y a par exemple un problème qui s'est passé. Et on a aussi une belle tradition dans ce domaine, où on a donc Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit que vos femmes, écoutez bien, c'est une belle tradition, il dit que vos femmes, parmi celles du paradis, sont celles qui sont douces et fertiles. Celles qui reviennent vers leur mari, même lors d'une négligence. Al-A'oud, comme on dit. Celles qui reviennent lorsqu'il y a une négligence qui a été faite. Donc ça, c'est comme au début de la tradition, vos femmes parmi celles du paradis. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a deux actions qui sont citées. Trois même, on va dire. Donc, comme on a dit, donc douce, la deuxième, fertile, c'est celles qui ont des enfants, et naturellement, celle qui revient vers son mari quand il y a une négligence qui est faite. Et subhanallah, quand vous préparez ces sujets-là, ou bien quand des fois pour certains parmi vous lisent certains sujets dans le domaine « Comment gagner le paradis », vous remarquez que, chères sœurs, dans votre côté à vous, il n'y a des fois pas 36 choses à faire. Il y a des traditions qui viendront dans ce domaine-là. Des fois, on demande à la sœur de faire quelques actions, et en quelque sorte, elle peut, si c'est fait sincèrement et accepté par la subhanallah, gagner le paradis. Que penser lorsqu'on retrouve dans cette tradition ici, et qu'on vous parle de celle, en quelque sorte, qui, lorsqu'il y a une négligence, revient vers son mari, et qu'elle le fait sincèrement, elle peut gagner aussi le paradis. Avec des actions, comme vous le remarquez, assez simples. On vous dit aussi que, et Cheikh Jazaullah Dawish, lorsqu'il parlait de cette tradition, il dit aussi que, c'est-à-dire, il donne un commentaire très beau. Il dit, si jamais on veut vraiment avoir une belle image, il dit que celles dont ils reviennent vers leur mari, on peut donner un exemple en disant, c'est si jamais il se met en colère, c'est elle qui vient et met sa main. Regardez quelle image il va donner. Mais comme je dis toujours, c'est peut-être une scène qui va peut-être se passer d'ici je ne sais combien d'années, mais on espère qu'elle se passera et qu'elle se passe déjà pour certains. Qu'est-ce qu'elle dit alors à ce moment-là? Elle met sa main sur sa main et elle lui dit, je ne peux goûter quelque chose jusqu'à ce que toi tu sois content. Je ne peux, ça veut dire quoi en quelque sorte? Si jamais tu n'es pas content, moi je ne serai jamais contente. Donc c'est comme si sa vie elle est finie, la pauvre. Elle attend que toi tu sois content. Et il te dit alors la meilleure, c'est celle qui revient vers son mari. Elle dit, voilà, tant que tu restes comme ça en colère, moi je ne sais plus rien faire. C'est tout. Je ne peux rien goûter, il n'y a rien qui va me goûter ni quoi que ce soit. Elle l'attend. Il est un fait qu'en général, la plupart des savants dans ce domaine, tu dis que d'office, à part si l'homme aura un cœur vraiment de pierre, mais d'office, l'homme alors à ce moment-là, raffaiblit en quelque sorte cette chaleur qu'il a dans le cœur là de colère et ainsi de suite, elle se rabaisse au fur et à mesure et revient alors aussi vers son épouse. Des petits moyens très très simples, mais comme vous l'aurez remarqué, de nos jours, c'est « Oh, reste dans ton coin, seulement là, reste, il n'y a pas de problème. » Ou bien la mère va te regarder, oh, « tire la tête. » Peut-être qu'on va imaginer ce qu'elle se dit dans la tête. « Oh, tire la tête, c'est lui qui a fait le malin, tire la tête. »« Oh, oh, mashallah, salam alaikum. » Et tu les vois alors comme deux trains qui passent l'un à côté de l'autre dans le salon. Elle, quand il passe, frit, lui, quand il passe, aouda, comme vous le savez, il a déjà son aiguillage. Il sait par où il doit aller. Et ils s'arrangeront comme ça pendant 2-3 jours à jamais se croiser. S'il rentre dans la cuisine et qu'il la trouve, ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien, je n'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu cherches, moi? Ah non? Je t'ai rien demandé. Ou bien, elle, si jamais elle vient et qu'elle a oublié qu'elle était en bagarre. Parce que les femmes, des fois, vous allez remarquer, et c'est un bienfait, alhamdoulilah, des fois, l'homme, il est connu très rancunier. L'homme, il a un cerveau, des fois, coupé en 20, il laisse des chapitres bien ouverts. La femme, on vous dit que des fois, c'est pire. Vous savez, il y a un genre de poisson, je ne sais plus si c'est l'orque ou, hein, il y a un genre de poisson, à ce qui paraît, comme le système du chameau, ou bien la chamelle, on te dit. Il garde dans sa tête, pendant des années, la photo de celui qui lui a fait du mal. Et des fois, toi, tu peux avoir oublié. Tu peux des fois passer et te dire, au fait, donne-moi, dans derrière comme ça. Ah, ton ordinateur, il fait ça, hein, stop. Puis il va en arrière, oh, bien, oui, oh, ça va, ça, j'ai pas besoin. Allez, ah, il repart, chez toi. Non. T'es non, là, on vous dit non. Et c'est pour ça qu'on demande alors à l'épouse, à ce moment-là, de ne pas ouvrir cette porte. Jamais, jamais, jamais. Parce que Satan, et vous allez le remarquer pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, Wallah, il a dit ça, on peut, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Quand tu rentres dans une petite scène où les deux tirent la tête, des fois ça peut prendre des jours. Chez ceux qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut prendre des jours et des jours. Et ce qu'on rappelle aux sœurs, et certains qui n'ont pas la religion, c'est ça qui fait un peu mal au cœur, certains qui ne connaissent pas nos principes de la religion vont dire, mais ces musulmans, ils parlent tout le temps que du lit, que des relations. Que penser alors si on revient aux traditions qui te rapportent que la femme alors qui va alors normalement se coucher, dormir, dans le même lit, on va dire, que son mari, et que son mari, alors à ce moment-là, est en colère sur elle, qu'est-ce que les anges lui font jusqu'au matin? Qu'est-ce qui se passe pour cette femme-là, pour cette épouse? Gagner, wal'adhu billah, lui encourer la malédiction, je fais le jeu de mots pour vous dire qu'est-ce que gagne normalement certains, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être maudit, tout ça, pour que lorsqu'on revient en arrière et qu'on va un peu repenser à qu'est-ce qu'on a eu, quelle bagarre on a fait, pourquoi, tu remarques que des fois certains, pour du sel ou pour un mot qui a été dit en plus ou des choses comme ça, subhanallah, perdre sa vie, sa religion et ainsi de suite pour des fois des tracasseries entre guillemets qui sont en quelque sorte des fois bêtes, simples. Donc on fait attention à ce sujet-là, s'il vous plaît. Et naturellement, on rappelle souvent pour ce genre de problème, que ce soit pour l'homme ou la femme, les mères, c'est une éducation. Ça, chers frères, chères sœurs, il n'y a pas de remède médical, parce que les seuls remèdes médicaux, c'est que tu deviens un légume, on va te donner des calmants pendant des années. Et qui pour nous musulmans, un des remèdes qu'on a, on revient vers le Coran, la lecture du Coran, on met une cassette de Coran, ou bien le meilleur qu'on a, c'est aller faire les ablutions, car comme vous savez, les ablutions, ça refroidit, hein, en quelque sorte le corps, on fait ces ablutions, on prie de raka'at, et on revient vers son épouse comme si de rien n'était, et même, l'épouse, et ça c'est un conseil s'il vous plaît, l'épouse, si jamais elle remarque que le mari ne revient pas vers elle, ne laissez pas aussi Satan rentrer dans votre tête en vous disant, ne t'excuse pas, lui va le faire, et si jamais tu vas t'excuser, ne fais pas l'erreur d'essayer de lui montrer, mais hey, je l'ai fait, hein. Pourquoi? On te dit c'est mieux de laisser t'excuser, et laisser une période passer, et tu es en droit, il n'y a pas de problème, de revenir alors vers ton mari après quelques jours, quand il a bien oublié l'histoire, parce que comme on le sait, tu ne vas pas oublier l'histoire, mais tu reviens vers lui, après quelques temps, et tu lui dis alors à ce moment-là, voilà, ça m'a quand même blessé, tu m'as fait telle et telle chose, tel et tel jour, est-ce qu'il y a moyen qu'on en discute? Alors le frère, bon, il est un fait qu'il n'a pas besoin de devenir orgueilleux. Il n'y a pas de problème. On est des êtres humains, c'est bien de discuter. Subhanallah, on n'est pas des messagers, des prophètes, ou non. On est encore des êtres humains simples qui peuvent commettre des fautes, et ainsi de suite. Et on peut alors à ce moment-là discuter carte sur table et dire voilà. Mais ça, c'est là que Satan arrive et l'orgueil, ainsi de suite. Car normalement, si l'épouse ou l'époux étaient des personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, si elle vient et qu'elle te dit, ou bien si lui vient et te dit, oh épouse, ici, hein, dans la religion, là, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'avais pas le droit de le faire, la personne va dire, voilà, je m'excuse, elle reconnaît à ce moment-là, et puis l'affaire, elle est clos. Mais ça, c'est quand on connaît ses limites vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'on connaît ses devoirs dans ce domaine-là et ses obligations. Le sixième point important, c'est qu'une vie conjugale aussi avec dévouement et obéissance. Donc c'est mu'asharatuhu, bihusni sam'i wa ta'a. C'est le fait donc d'avoir ce qu'on appelle une femme qui veut gagner donc son mari et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remarque alors à ce moment-là que si jamais elle veut avoir donc cette vie de couple avec dévouement et obéissance, on remarque alors la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhu qui dit que, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la femme fait ses cinq prières, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure pour les actions que normalement la femme est censée faire et qu'elle peut gagner si cela est fait sincèrement comme il le faut le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si jamais la femme fait donc ses cinq prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira entre au paradis par n'importe quelle porte du paradis tu désires. Subhanallah, quelle facilité. Le mari, comme vous le savez, n'a pas encore ce bien fait. Il a encore beaucoup de choses à faire. Mais l'épouse, regardez ce qu'on lui demande. La prière, walhamdulillah, c'est la moindre des choses. Jeûner son mois, walhamdulillah, comme vous le remarquez, une fois par an. Préserver sa chasteté, c'est la moindre des choses aussi. Obéir à son mari, c'est là le problème. Parce que la tradition, quand on essaye de traduire cela, quand on parle de ta'a, c'est pour ça que le mot en arabe, il est meilleur, il est beau. Lorsqu'on parle, vous savez, c'est pour ça que j'ai remarqué quand j'essaye de traduire ce qui se dit de l'arabe au français, c'est là que j'ai compris, et en rigolant avec le frère Mustapha, un jour, je rigolais plus, je lui dis, je comprends pourquoi les femmes n'aiment pas le mot ta'a. En rigolant comme ça, mais comment ça? Je dis, parce que quand tu traduis en français, c'est un mot qui est, et c'est normal, je les comprends, c'est un mot qui est très dur. C'est obéissance. C'est quoi obéissance? Lève-toi, c'est lève-toi. Obéir. Glace, c'est glace. C'est obéir ou pas? C'est là que vous voyez la pauvreté de la langue française par rapport à l'arabe. L'arabe, subhanallah, c'est ta'a. Et le mot ta'a, il est beau. C'est obéissance quand même, mais c'est toujours attaché donc à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours en quelque sorte cette action de faire la chose vis-à-vis de son mari, mais on sait que c'est parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande. Donc on lira toujours, il y aura toujours un lien entre le mot et la religion, toujours. Mais quand tu le traduis en français, c'est quoi l'image qui t'apparaît? C'est le chef et l'ouvrier en bas. Toujours. L'obéissance. Tu dois obéir. Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un tu dois obéir, ça veut dire qu'il se pourrait que tu n'aies rien à dire. C'est pour cela que l'arabe, alhamdulillah, a ses qualités Ce bouté, il a aussi son sens. Lorsqu'on parle d'un mot bien précis, ta'a, on sait de quoi est-ce qu'on parle. Et c'est pour cela que Satan, l'anallah, s'est joué de beaucoup d'épouses, de beaucoup de femmes. Parce que le mari peut venir, chère sœur, te donner un conseil, et c'est un conseil qui te fera du bien, et qui est un bien pour toi, mais parce qu'on va te le dire, bon, c'est parce que de nos jours, toutes les générations en général, on ne parle que du français. La deuxième génération, on ne parle que le français. Alors quand le frère, il a un problème, on va dire, tu dois m'obéir. Ça, c'est un mot qui ne rentre pas dans les oreilles de certaines. Ça ne rentre pas dans la tête de certains. Obéissance, non. J'ai pas. Et c'est pour ça qu'on entend, alors des fois, même dans les discussions qu'on a avec ses couples, j'ai pas à t'obéir, j'ai pas à d'ordre de recevoir de toi, je n'ai pas. Ça, ça parle toujours du style de chef à sous-chef. Chaque fois que tu me dis non, je ne suis pas obligé, et ainsi de suite. Avec une chère sœur, sache que même si on te parle de ce mot en français, et qu'on te parle donc d'obéissance, on te dira que, fais attention, essaye de l'apprendre et de le traduire en arabe, car il est plus beau. Et son sens est beaucoup plus élevé que le sens qu'on lui donne en français. Et il est un fait que les gens d'obéissance, et vous le savez, donc on les retrouve la plupart du temps dans la religion. Très très, très important dans la religion. Et aussi, l'obéissance peut se retrouver dans des choses que l'on retrouve, comme d'habitude, privées entre toi et ton mari. C'est quoi, par exemple? C'est le fait de répondre à ses demandes. Que ça soit, par exemple, la nourriture, certains besoins, parce qu'il aime cela, il aime telle et telle chose, pourquoi ne pas lui faire ce plaisir-là? Et on peut retrouver aussi cela, et c'est un point important qui est très très dangereux, dans le domaine aussi, relations sexuelles privées, l'homme et la femme. Et ça, c'est un point, et c'est, il y a beaucoup de traditions citées dans ce côté-là, qui font en sorte que des fois, l'homme peut demander donc à son épouse de venir vers lui, d'avoir une relation avec lui, et des fois il y a ce qu'on appelle un rejet, parce que peut-être la personne ne veut pas, mais ce qui est beau dans la religion, on vous dit que normalement, mais c'est ça, vous savez, on peut aller très loin dans les explications et voir comment est-ce que ceux qui ne sont pas dans notre religion voient la chose, parce qu'il y a des traditions qui des fois, lorsqu'elles sont lues par des gens qui ne sont pas musulmans, et j'ai eu une fois la remarque, on était encore à l'école, il y a une tradition qui dit que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais l'époux demande à son épouse de venir pour avoir donc un acte avec elle, même si elle est en train de préparer, donc on parlait de tandoor, même si elle est en train de préparer par exemple du pain ou autre, elle se lève et répond à son mari. Certains comme oh purée, c'est animalier, vous hein? Oh oui, parle. On vous faisait la remarque. Tu sais, c'est pas un objet, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais lorsque tu mets ce sujet en plein milieu de tous les sujets qui touchent de près et de loin le couple, c'est quelque chose de tout à fait normal. Un musulman et une musulmane, pour eux, c'est un plaisir. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais de nos jours, parce qu'on a eu 55 ans dans l'éducation, quand l'époux fait appel à son épouse, et des fois, ça m'a un peu fait rire de nos jours, mais bon, comme vous savez, on ne sera jamais étonné de ça. Des fois, c'est même l'inverse. Tu peux avoir une épouse qui se plaint que l'époux ne répond jamais à ses appels. Ça arrive aussi. Ça, c'est le monde à l'envers, mais vous allez encore voir beaucoup de choses qui sont encore à l'envers. Et donc, si jamais vous remarquez donc ce genre de choses, vous voyez qu'en général, et subhanallah, il y aura toujours une réponse. C'est que si vous prenez certains livres qui vous parlent de ce qu'on appelle les prémices, comment en quelque sorte se préparer à avoir donc des relations et autres, tous les jeux intimes, c'est là que vous comprenez alors certaines traditions. Et que vous savez que normalement, quand il y a cette bonté, cet amour entre les deux, en général, ça ne cause pas problème. Mais souvent, quand ça devient un problème, le fait d'avoir un acte et autres, ça devient un problème quand? C'est lorsque tu remarques qu'effectivement, il y a en quelque sorte un problème entre les deux qui est caché, et qu'un des deux ne veut pas dire à l'autre qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que de nos jours alors, il y a des plaintes qui sont là, qui font des fois mal au cœur, et qui sont même des fois honteux, entre guillemets, c'est un peu honteux comme plainte, c'est de dire le fait, ouais mais c'est un collant, il colle, subhanallah, qu'est-ce qui est préférable? Qu'il te colle à toi, ou bien qu'il va coller quelqu'un à l'extérieur, comme on l'entend de nos jours, la plupart, je dis bien, pas tous, mais la plupart des divorces, c'est parce que des fois, je dis bien, des fois, avec tous les problèmes qu'il y a, parmi ces problèmes, tu peux trouver que l'homme, par exemple, voilà, ne se satisfait plus, on va dire, entre guillemets, de l'épouse qu'il a, et ainsi de suite, ou bien parce que l'épouse va s'amuser à faire ce qu'on appelle un genre de calcul avec lui, si jamais ils ont eu un jeu intime et autre, ben le prochain, hein, t'as qu'à prendre un ticket dans 3 semaines. Et il est un fait, voilà, là, ça c'est un point qui peut des fois nous faire suer quand le parti plus et moi qui est assis à cette place-ci, mais qui on a été obligé, j'ai demandé conseil avant de parler de ce point-là, mais on m'a dit c'est tout à fait normal, qui plus est de nos jours, car c'est un des problèmes que l'on retrouve souvent entre les couples, c'est ce côté-là. Et il est un fait que, chères sœurs, si jamais vous êtes face à cette situation-là, sachez que chaque acte que vous allez faire dans le bien et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est là où vous en avez un bénéfice, vous en avez un bienfait, et donc toujours, comme on l'a dit, dans les limites. La virgule que je vais rajouter pour ce point-là, pour que certains ne laissent pas Satan rentrer dans leur tête lorsqu'il y a donc ces demandes, hein, d'avoir un rapport et autres. Il est un fait qu'en vérité, il peut y avoir des fois des refus. Il peut y avoir. Mais vous savez quand est-ce qu'ils sont acceptés ces refus? C'est quand le couple s'entend bien. Ils sont sincères entre eux. Alors l'épouse, si jamais elle a un refus de son mari, ou le mari s'il a un refus de son épouse, il sait que normalement, il y a ce qu'on appelle quand même une sincérité, elle ne va pas lui mentir. C'est que vraiment elle a un problème, soit une douleur, soit ceci, soit cela. Parce qu'on est des êtres humains, comme on dit toujours. Et c'est pour ça que je dis, même s'il y a la tradition, hein, n'empêche qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une entente entre les deux. Et que si jamais le problème se passe, eh bien il y a un respect des deux. Il y a pas, ça ne va pas gêner le mari, et ça ne gênera pas aussi l'épouse. Mais souvent c'est parce qu'il y a d'autres conflits qui sont cachés, et on en profite alors, wal'a'idoubillah, de ce côté, parce qu'on sait que l'homme en a, et c'est naturel, c'est tout à fait normal, subhanallah. L'homme peut avoir cette attirance-là, et wal'a'idoubillah, le top des top alors dans le domaine du satanisme, c'est que la femme alors s'amuse à jouer avec ce point-là. Et ça, wal'a'idoubillah, c'est la chose à ne jamais faire, et que si jamais quelqu'un est tenté par ce point-là, qu'il sache que c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le point de rupture, wal'a'idoubillah. C'est pour ça que ce point a de l'importance. Jamais, jamais, jamais l'épouse ne doit s'amuser avec ce point et se dire, voilà, il a fait le malin, ben, si jamais il s'approche, Allah, il va voir ailleurs. Et ben, certains, ils le mettent en pratique et peuvent aller voir ailleurs. Voilà, Alhamdulillah. Il est un fait qu'à cause de vous alors, la personne se retrouve. Ça ne veut pas dire qu'il est, en quelque sorte, excusé. Ah, mais je l'ai fait parce que mon épouse, non. Voilà, Alhamdulillah, il a commis donc cet adultère et c'est ce qu'on reçoit tous les jours. Et ça fait mal au cœur de voir que la communauté se casse, ou bien des couples se cassent, pas toute la communauté, Alhamdulillah, mais des couples se cassent pour des points tout aussi naturel qu'il y a, le fait d'avoir des rapports donc entre deux personnes. Un des points aussi très très embêtant ces derniers temps, qui revient souvent, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle le travail, ou aveifa. Ça c'est un point de nos jours qu'on a discuté à toutes les sources. La femme doit-elle travailler ou ne doit-elle pas travailler? C'est halal ou haram? Est-ce qu'elle peut ceci? Ah mais moi j'ai un endroit où il n'y a que des femmes. Ah mais moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Quand vous allez voir un peu tout ce que les choses rapportent dans ce domaine-là, et lorsque moi j'ai été plus loin dans l'histoire, je ne m'y attendais pas quand j'étais en train d'écrire ce sujet-là. Je regardais un jour le journal et ils avaient invité la femme d'un ministre. Et pendant que j'étais en train d'écrire, donc la bonne femme parlait. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle parlait sur le rôle de la femme chez elle, dans sa maison. Et elle se plaignait, donc c'est une femme de ministre, imaginez-vous, hein, donc c'est l'argent, tout ce que vous voulez. Hein, hein, hein. Elle disait, donc elle se plaignait en disant que, donc kofar, hein, on va dire, c'est pas de chez nous. Elle se disait, ce rôle a été perdu. Et on remarque que les familles se sont décimées, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus rien, pas de contact entre les enfants, les parents et ainsi de suite, car la femme a délaissé son foyer. C'est une non-musulmane qui le dit. Et de nos jours, on a alors des sœurs musulmanes qui peuvent des fois entamer une bagarre ou une dispute avec leur mari parce que je veux aller travailler, il ne veut pas. Et l'islam nous donne des droits, l'islam on associe et on te sort les 36 drapeaux et ainsi de suite. On dit souvent. Et c'est prouvé, donc c'est pas parce qu'on va se dire, ah tiens, ça c'est un petit pur et dur qui est venu parler, donc c'est connu chez eux, la femme ne travaille pas, non, non, non. Vous pouvez aller vous poser la question à qui vous voulez. Celle qui veut faire entrer ce qu'on appelle les problèmes dans son couple, qu'elle aille travailler et qu'elle va voir ce que ça va donner. Si des non-musulmans se plaignent et se disent, non, on veut revenir à ce qu'on appelle ce rôle primaire qu'on nous a donné, qui est le fait de s'occuper de notre famille, et quand on voit chez nous, donc en tant que musulman, que la femme est cette fameuse, entre guillemets, reine chez elle, pendant que son mari, moralement, lui est obligé de lui apporter tous les moyens de subsistance, on vous dit qu'elle, en quelque sorte, et des fois des non-musulmans nous le disent même au centre, ils viennent chez nous au cours d'initiation à l'islam, et vous disent, c'est dans leur langage, hein, nous on dit bien fait, mais eux tu dis la chance. Ah mais c'est vrai qu'une musulmane, elle a quand même de la chance, hein. Elle ne doit pas aller nettoyer les toilettes à la société Abilis, hein. Après qu'un type vient de sortir de la toilette, ton épouse elle rentre avec moi parce qu'on a des problèmes d'acheter une maison. Achète-toi d'abord ta tombe. Pense à ta tombe d'abord. Si jamais est-ce que tu vas la trouver comme il faut. Est-ce qu'elle sera bien aérée, Inch'Allah? Est-ce qu'elle sera bien spacieuse? Ou bien tu vas tomber dans une de ces tombes où tu n'arriveras même pas à voir comment est-ce que tes côtes vont entrer l'une dans l'autre. Mais on oublie cette demeure-là. Mais on pense à la demeure d'ici-bas. Allez, travaille, on y va. Elle pompe le matin, tu pompes le soir. Quand ils se voient, le dimanche et encore, si jamais ils rentrent de travers, ils se battent, alors ils se voient dimanche prochain. On verra. Voilà, Alhamdulillah. Donc l'argument que je donne des fois qui est simple, pensez à ceux qui sont non musulmans et qui regrettent ce genre en quelque sorte de joie que peut avoir une femme musulmane d'être chez elle, d'accueillir son mari et ainsi de suite, d'éduquer ses enfants et donc faire plein de choses qui peuvent en quelque sorte lui procurer donc ce plaisir et tous ces bienfaits. Et naturellement, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il rapportait aussi que si le travail de la femme va interférer dans sa vie de couple et de ses enfants, cela est illicite. Car le rôle d'éducation, de tranquillité dans le couple, d'entraide, de complémentarité de chacun par rapport à l'autre, c'est ce que normalement on doit retrouver dans un couple. Et il vous dit qu'il faut faire passer donc son couple, ses enfants, avant toute pensée de travail et autres. Donc cela prouve que, si jamais on prend déjà toutes les fonctions qui ont été citées, on voit qu'il y a de l'importance dans ce côté-là. Aussi, le point 8, donc c'est l'aider dans le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'inciter de faire le bien. C'est i'anatuhu ala ta'atillah wa hafthuhu ala fi'li al-khayrat. C'est le fait de pousser votre mari, votre époux, et lui rappeler qu'il y a des prières qu'il faut faire en commun, qui plus est quand il rentre le soir. Il y a des prières, mais ça, bon, je parle pour les plus ovnis parmi vous, les plus, hein, qui vivent dans les nuages. Il y a aussi le fait de réveiller son mari, hein, la nuit pour faire quelques prières ensemble, qiyam al-layl. Ça, naturellement, on vous laisse dans quelques années pour certains, parce que c'est quelque chose qui a été complètement oublié, faut même pas en parler, c'est un sujet, qiyam al-layl. À peine si j'arrive à qiyam al-na'as, ou qiyam al-layl. C'est déjà dormi, je dis, qiyam al-layl. Non. Hein? Ça, c'est la vie de couple. Vous verrez que c'est trop compliqué, il y a trop à faire. Et il est un fait que, dans ce côté-là, quand on quitte l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tomber dans les problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, en nous disant que ce qui vous atteint comme malheur n'est même que de vous. Donc tout ce qui peut t'atteindre, tout ce qui peut te toucher, c'est parce qu'en vérité, quand tu reviens et tu vois la chronologie, comment est-ce que ça s'est passé dans ton couple, c'est parce que tu étais tout à fait à côté de la plaque. Et donc l'épouse, walhamdulillah, l'épouse pieuse, est celle qui va pousser donc son mari aussi à faire le bien, donner l'aumône. Donner l'aumône, c'est un point important parce que c'est aussi un des points de bagarre qui se passe des fois, de dispute entre les époux. Vous savez quel exemple je peux donner tout simple? Un frère vient chez toi, Mskin, fait « Allah yahi, voilà, on a eu des problèmes, mon armoire a pété et tout, tu sais, je suis CPS, Minimex, tout ce que tu veux, j'ai pas d'argent, on a, kada. » Donc dans ta tête, tling, tu te dis « Mashallah, je vais l'aider. Ah, j'ai 5 000, je vais l'aider à celui-là. » À peine tu rentres chez ton épouse, qui t'accueille, ta femme, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, en fait, Abdel, il y a l'armoire qui a pété et tout, lâche une armoire. Enfin, qui passe avant? Quand tu as des gens qui sont censés, qui pensent un peu le khair aux autres de temps en temps, donc pour le bien des autres, tu peux alors lui dire à ce moment-là, mais donc, à tes risques et périls, cher frère, mais donc tu peux lui dire que, voilà, hein, je vais aider donc tel frère musquin parce que voilà, il est vraiment fini, ceci, cela, kada, kada. Eh bien, il faut alors que l'épouse pieuse, à ce moment-là, se dise dans sa tête, mais effectivement, cet argent, on l'a besoin, mais il va le faire quand même dans un bien. Il se pourrait que moi, hein, je vais peut-être un jour être dans cette situation-là et je ne trouverai peut-être personne pour m'aider. Mais l'inverse, comme vous le savez, des fois, Satan peut intervenir et vous dire, hey, tu donnes aux autres et nous on a besoin. Tu fais ceci et nous on a besoin. Et chaque fois le besoin, le besoin, le besoin. Alors qu'on vous dit souvent d'aller regarder plus bas pour remarquer tous les bienfaits que tu as très haut. Et ça, on oublie de le faire souvent. Et naturellement, les problèmes qui interviennent dans le couple, lorsqu'on quitte en quelque sorte le chemin de l'obéissance, vous savez ce que c'est? C'est souvent par exemple tout ce qui est délaisser la prière, prier en retard, les lectures dans le vide. Voilà, des fois on a des discussions avec des frères et sœurs, des fois la sœur elle se tape des revues, Psycho Plus, Flair, je ne sais quoi, comment maigrir, comment exploser, comment ceci, comment cela. Et là, alors on demande aux épouses, comme on l'a demandé la fois passée à l'époux, d'essayer de revenir vers les lectures qui vont vous aider ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, on néglige cela, Ikhwan. Sans penser, sans compter, sans oublier. Et ça, c'est une réalité de nos jours. On peut avoir des sœurs qui sont pratiquantes, montazinotes, comme vous voulez, mais qui encore ont cette fameuse habitude d'aller lire des romans. Quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé. J'ai dit, subhanallah, on va lire des romans. Jeannette qui est tombée de je ne sais quel avion, qui court, le prince qui vient par là, je ne sais pas quoi, on est obligé, le mari qui dit, ok, l'Irda, attends, je lis la page 52, je ne sais pas si elle est tombée ou pas encore, hein, on voit, hein. Et puis, subhanallah, et ça arrive, ça. Non, soyez pas étonnés. Et puis, quand on parle alors de sira, de choses comme ça, allez, de nouveau, sira, et tout, non. Faire attention un peu, hein, chers frères, chers sœurs, à vos lectures. Faire aussi attention à votre intérieur. L'intérieur, des fois on fait des erreurs sans le remarquer. C'est les photos qu'on met. Les photos de grand-père, grand-mère et arrière et ainsi de suite. Les enfants, parce que j'aime bien mon petit Abdel, mon petit ceci, mon petit ceci. Et Amma, toute la maison. Non, subhanallah, faites attention. Car vous savez, ce sont toutes des choses qui font en sorte que beaucoup de bienfaits sont perdus. Et naturellement, l'autre problème le plus grave qu'on a rentré dans nos maisons, mais bon, on n'a pas, entre guillemets, des fois on n'a pas entre les mains, chez certains couples, hein, c'est pas tout le monde, on n'a pas des fois le choix, comme on dit, hein, c'est la TV. La télévision qui est employée n'importe comment, où on regarde n'importe quoi. Ça, c'est aussi un des calvaires qui est rentré dans les maisons et qui, pour certains, avait peut-être une intention au début. Ah là, nous, c'est pour voir des petits reportages des fois, les petits oiseaux, les petits trucs. Hein, moi, je pensais pas qu'elle allait regarder NBC du matin au soir jusqu'à ce qu'elle devienne imbécile. Hein. Non, je pensais pas. Moi, je pensais pas. Et il y en a qui les trouvent dans les Sahras, comme on dit. Il y a des chaînes, comme vous savez, dans certains pays, ils sont toujours heureux du matin au soir. Et vous les connaissez. Et des fois, on a par habitude, sans qu'on le remarque, des personnes qui passent dans leur journée à faire le ménage et le concert il est occupé et ainsi de suite. Donc on fait attention à ces petits détails-là. Et pour terminer donc, on a des points que je vais citer et qui sont compréhensibles directement, qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Chère sœur, il faut aussi que tu agisses en fonction aussi de ses désirs, mais dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi donc que la sœur préserve aussi le bien de son mari, qu'elle cherche aussi à savoir ce qu'il aime et apprécie, de parler aussi et de discuter de la façon la plus courtoise, car cela naturellement est apaisant pour l'époux, de toujours lui montrer de l'amour et de l'importance et de l'attention. Ça c'est quelque chose aussi qui fait plaisir donc au mari. Et naturellement, comme on l'a dit la fois passée, ça fait aussi plaisir à l'épouse quand le mari lui montre toujours qu'il a quand même donc cette bonté, cette affection, cet amour vis-à-vis d'elle. C'est important ça. Et beaucoup d'entre nous négligent ce sujet-là, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. Des fois, soit c'est par routine, ou des fois parce qu'on a honte de le dire. Et donc on en a assez parlé pour cela. Veillez aussi au respect des proches de votre mari, qui plus est de ses parents. Ça c'est un des gros problèmes qu'il y a aussi chez les sœurs, des fois rarement chez les frères, mais ça se passe aussi, c'est que le fait des fois, la femme n'aime pas donc les parents du mari. Parce que comme vous le savez, il y avait un cheikh, rahimahullah, qui un jour donc nous disait dans un dars il y a quand même une quinzaine d'années, disait que c'était une petite blague, en quelque sorte, comme une blague réelle, mais qui de nos jours a ses preuves. Il disait que quand la mère passe devant la maison de sa fille qui est mariée, elle lui dit « Dors, 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 là il fait froid dehors, il y a du vent, de la pluie, t'as pas besoin de sortir, naas, repose-toi ». Il n'y a que les folles qui sortent. Et quand elle passe devant la maison de sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Viens, tawakkallah. Les gens, ils ont déjà balayé, ils ont déjà tout préparé. Et toi, tu es encore en train de dormir. Ah, viens, elle me fait ça, elle commence à l'insulter. Et c'est ce qui fait que de nos jours, des fois, tu peux avoir des parents qui sont une certaine un peu naïfs ou sincères, qui vont peut-être des fois taquiner cette épouse. Et si l'épouse n'a pas d'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la plus grave des erreurs. Elle devient en quelque sorte quelqu'un qui haït alors les parents de son mari. Et des fois, qu'est-ce qu'on entend? J'ai encore eu le cas, il n'y a même pas deux jours, où le frère téléphone et dit, qu'est-ce que je choisis? Mes parents ou ma femme? On a souvent ce cas. Ma femme, quand elle vient chez ma mère, elle reste 10 minutes. Quand elle va chez sa mère, elle reste 3 jours. Qu'est-ce que je fais? Ma femme, quand elle va chez sa mère, elle rigole. Des fois, j'ai même envie peut-être de lui enlever, vous savez, le petit clips, pour qu'elle rigole plus. Elle rigole. Elle est heureuse. Quand elle va chez ma mère, j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans une tombe ou dans un cimetière où elle ne bouge pas, elle parle même pas un mot. Chère sœur, sachez que les parents de votre mari sont comme vos parents à vous. Et le frère, alhamdoulilah, les parents de son épouse sont comme ses parents à lui. On a un respect vis-à-vis de ces gens-là. Ne sortir qu'avec sa permission, et ça naturellement, on l'a assez rappelé, mais on rappelle aussi donc le fait, en quelque sorte, l'exagération qu'on retrouve aussi. Ça, c'est un rappel aussi aux frères, c'est que des fois, certains frères prennent certains versets et autres et s'arrangent à se dire non. Elle ne sortira jamais de sa vie. Je rigolais il y a quelques années quand j'entendais certains, on va peut-être m'en vouloir, j'avais un riff, un voisin, tout le monde étant gérois comme on dit. J'avais un riff, et le riff il me disait un jour, on parlait comme ça, il me dit, ah, c'est un vieux, il me dit, ah, les femmes d'aujourd'hui, tu fais pourquoi? Il me dit, chez nous, nos parents nous disaient, la femme, elle a 3 endroits. Elle a sa maison, quand elle est avec sa mère, elle a sa maison quand elle est avec son mari, elle a sa tombe. Elle n'a pas un troisième endroit. C'est pas 4. Il nous dit, regarde maintenant le cuisine, comment il se balade à gauche à droite. Là, il a raison. C'est pour ça que l'islam a régi aussi les sorties de la femme. Pas n'importe où, n'importe comment, et ainsi de suite. Mais qui, par exemple, si jamais tu sais que vous habitez à un endroit où il n'y a pas de problème, et ainsi de suite, et que tu es là pour pouvoir l'emmener, et ainsi de suite, c'est un bienfait, subhanallah, de pouvoir sortir avec son épouse, d'aller la conduire, et ainsi de suite. Ou bien de lui faire confiance parce qu'elle va aller de chez toi à un cours, par exemple, ou rencontrer une sœur qui est malade, et ainsi de suite. Donc tout ça se discute entre l'époux et l'épouse. Et aussi donc le jeûner, ça c'est un point aussi un peu important, le jeûner en la présence de son mari qu'avec sa permission, son autorisation. Et donc naturellement il y a encore bien d'autres points à citer, il y a bien d'autres points à citer, mais le résumé c'est que la vie de couple, comme vous l'avez remarqué dans les deux conférences qu'on vous a fait, est très belle. Et il y a moyen qu'elle devienne encore plus belle qu'elle l'est normalement. Mais c'est un art aussi que très peu de personnes connaissent. Et c'est aussi une vie d'adoration avec ce que chacun a comme spécificité que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que les deux craignent Allah subhanahu wa ta'ala et l'un par rapport à l'autre. Et il faut donc aussi revoir tous ces points que l'on a cités et aussi les revoir tout le temps. Car à chaque fois, il y a moyen de revoir chaque point. Et se donner aussi la parole de vivre les bons et les mauvais moments. Et la femme et l'homme useront alors à ce moment-là des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés. Et le cas contraire, les piliers de couple, du couple plutôt, se casseront. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله